tous ensemble. Marceau s'en vient prendre soin de vous autres. Puis nous autres, on se reparle demain. Midi dans le Pit Stop, 14h avec les demoiselles dans le retour. Bye-bye.
Ciao.
Une station créée pour les gens de Québec. Pas de script, pas de personnage, pas de rire en canne, de la spontanéité à l'état pur. Ici, la radio que vous voulez entendre avait l'instinct de parler de ce qui vous intéresse.
That's amazing.
Et jouer la musique que vous aimez.
There's nothing fake.
Chaque jour, on vous livre notre quotidien, votre actualité, au rythme de ce qui se passe dans notre ville et partout ailleurs dans le monde.
Bring the country together.
Mettant en vedette plein de dudes pis de dudettes bien sympathiques qui connaissent leur affaire.
You didn't know it until now.
Aucun film.
Dans l'auto, à la maison ou au bureau, tout le temps, c'est Boulevard 102.1.
Salut, bonsoir Québec, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1, en espérant que tu aies passé une belle journée. On va passer certainement un excellent 60 minutes ensemble en ce mardi, puisque ce soir on parle d'une mission éducationnelle au Nunavik. Je reçois trois personnes qui ont été en mission et qui nous rapportent tout ce qui se passe au Nunavik pendant que nous, un peu plus au sud, on vit nos petites vies. Jusqu'à maintenant, je regarde côté météo pour ce qui est de ce soir. Des averses, c'est ce qu'on nous mentionne, 30% de probabilité d'averses, donc si c'est pas déjà commencé dans votre secteur. Il y a de fortes possibilités que vous en ayez dans les prochaines heures, minimum de plus 5, comme aujourd'hui, bref. Pour ce qui est de demain, mercredi, ce sera nuageux avec un maximum de 10 degrés. Jeudi, alternance soleil-nuage avec 60% de probabilité d'averse, maximum de 10 degrés. Et vendredi, ce sera des nuages avec un maximum de 11. Ce soir, mission éducationnelle avec Pascal Caron-Vézina, ma collègue à moi, Pascal CV, qui sera en compagnie de Luc Paquet et de Christophe Amiotte-Giroux, qui sont des gens qui ont fait partie de cette mission-là au Nunavik. Et on va jaser pendant 60 minutes de ce qu'est vivre au Nunavik, à quoi ça ressemblait comme expérience, comment on est en tant que prof avec les étudiants là-bas versus nos étudiants ici, comment ils sont. Donc, un excellent 60 minutes en leur compagnie et ça me fait plaisir de les accueillir dans le studio. Sur ce, bonne écoute, les amis!
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Quel plaisir de les accueillir en studio. J'ai trois invités ce soir exceptionnellement. D'habitude, je n'ai juste un ou maximum deux. Là, ce soir, elle m'a imposé sa présence parce qu'elle connaît le sujet à fond. On va parler d'une mission éducationnelle dans le Grand Nord du Québec. Puis je vais accueillir ma collègue que j'aime bien, qui travaille avec moi à tous les jours, du lundi au vendredi, Pascal CV, qui est avec nous. Salut!
Salut, c'est aussi, je t'ai imposé la présentation.
Hein? Ben, c'est comme ça que c'était écrit, Pascal CV, avec qui j'aime bien travailler. À tous les jours, salut, du lundi au vendredi. Je suis content de t'accueillir en studio pour un Marceau le soir.
Merci.
Et tes deux invités, des amis que tu as rencontrés ou que tu connais depuis un bon bout de temps. Luc Paquet, qui est directeur de l'école du Mont-Saint-Anne et ancien enseignant au Nunavik. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Très content de te rencontrer aussi. Christophe Amiotte-Giroux, qui est enseignant en anglais à l'école secondaire du Mont-Saint-Anne. Salut.
Salut, ça va bien?
Merci d'être présents, les trois, là, pour parler de cette mission éducationnelle. Pascal, explique-moi le contexte de cette mission-là.
Mais je veux dire, Luc, je l'entendais parler à la radio à un moment donné. Luc, super dynamique, directeur d'école secondaire, qui a vécu dans le Nord, puis il essaie toujours d'amener des concepts différents à ses enseignants puis à ses élèves, puis il s'est dit, ben pourquoi pas aller directement dans le Nord avec des enseignants. Puis plus que ça, il a décidé qu'il allait les envoyer sans y être pour les dépayser puis qu'ils vivent leur propre expérience. Puis quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça, un, exceptionnel, mm-hmm, qu'on ait la possibilité de le faire.
Ouais.
Deux, extrêmement sensé dans le contexte actuel, dans l'ouverture, dans l'implantation de ce qu'on veut faire autant en sciences, en éducation qu'humainement avec ces communautés-là. Puis certainement dans tout ce qui est ignorance de ces peuples-là, qui sont là depuis bien avant nous, qui ont des droits, qui ont une façon de voir la vie qui est différente et dont on n'a aucune espèce d'idée de comment ça fonctionne et que c'est au Québec même. Mmh. Fait que je te dirais que le contexte et tout ce que je viens d'énumérer, et encore plus après l'avoir vécu avec eux, moi, j'étais vraiment une insider qui s'est greffée à ce groupe d'enseignants-là que Luc a créé et envoyé dans le Nord.
OK. Donc, Luc, c'est toi qui as créé ce groupe d'enseignants-là. Quel était le but initial de ça?
il y a environ 4-5 ans, là, on avait commencé à voir toute l'idée des tombeaux de jeunes anonymes là, qu'on voyait particulièrement dans l'Ouest canadien. Puis ça m'avait vraiment, vraiment frappé parce que j'avais vécu avec les jeunes autochtones. Puis c'est arrivé au mois de juin, puis j'avais dit à l'équipe, à partir de maintenant, c'est budget illimité pour n'importe quelle initiative que vous allez faire qui va aider la réconciliation, puis on va tout faire en sorte que nos jeunes, au moins à l'école, comprennent mieux ces enjeux-là. Puis il y a eu un paquet d'initiatives qui ont lieu. Christophe en a amené quelques-unes au fil des ans, puis tranquillement, je voulais juste m'assurer de trouver une manière de faire que ça allait rester quand moi j'allais quitter l'école, de dire c'est une couleur que l'école va garder. Et puis, j'ai un bon réseau au nord. Là. J'y vais quand même deux fois par année où ce que j'habitais. Puis j'ai dit, crime, peut-être que je serais capable d'envoyer des profs là. Parce que je me disais, si j'envoie 4 enseignants qui enseignent à 100 jeunes chacun pendant 10 ans de temps, bien, c'est quand même beaucoup d'enfants qui vont être sensibilisés à ça.
Exact.
Donc, c'était là l'intention. Amener des gens à vivre l'expérience. Puis dans la façon de faire, il y avait des obligations aussi de retour à l'école puis de retour aux jeunes pour s'assurer que c'est pas juste un voyage tout payé que tu vis puis t'as bien du fun, c'est qu'il y a un gain pour la société suite à ça.
OK. Et de ton côté, Christophe, pourquoi t'as accepté d'être de l'aventure?
C'est vraiment une... Je veux dire, c'est une partielle de nommer, là. C'est dans la province de Québec, mais en même temps, ça pourrait être sur la Lune. C'est quelque chose qui est proche, mais en met tellement loin en même temps. Mon beau-père a la chance de travailler dans le Nord, au Nunavik, faire des projets scientifiques. Et à chaque fois qu'il revient, il revient avec tellement riche de nouvelles découvertes humaines, géographiques. Il trippe absolument dans le Nord. Donc, ça m'a pas pris beaucoup de me faire convaincre, de dire hey, on t'offre un billet d'avion, on t'offre une expérience d'une fois dans une vie d'aller rencontrer des Inuits chez eux, dans leurs écoles, dans leur communauté. En contrepartie, fais ce que tu fais tous les jours, parle à tes élèves avec passion puis avec intérêt et on va être kiff-kiff. Donc, une fois que c'est présenté de cette manière-là, dans ma tête à moi, c'est un non-sens de pas y aller.
Tu avais un certain goût de l'aventure, mais tu voulais apprendre là-bas aussi. Là.
J'y allais avec un esprit super ouvert. Je pense que dans cette expérience-là, il y avait peut-être un danger d'avoir des attentes ou des idées préconçues. Tu peux juste être déçu ou confronté à quelque chose auquel tu ne t'attendais pas. J'ai beaucoup voyagé personnellement dans des endroits touristiques et moins. Donc, c'était vraiment esprit ouvert. Qu'est-ce que le voyage va m'amener? Qu'est-ce que les rencontres vont me procurer? Sans vraiment avoir un agenda ou autre que d'être capable d'en parler intelligemment par la suite. Là.
Je pense tellement que c'est un point important à mentionner, l'ouverture d'esprit, puis d'y aller avec aucune idée préconçue. Si jamais il y a préjugés, quels qu'ils soient, de les laisser derrière. Parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Tu le sais, Yannick, moi, aller dans le Nord. Mais ça
toi,
fait...
t'es une aventurière, je veux dire, une aventureuse. Une aventurière!
Oui. Ben, j'aime beaucoup ça. Tout ce qui sort de la zone de confort, qui t'amène à connaître notre réalité, l'humain. Ouais. Je suis passionnée de l'humain à la base. Donc, c'est sûr que tu m'amènes rencontrer des gens que j'ai jamais rencontrés avec une façon de voir la vie qui est complètement différente. J'embarque à 1000 à l'heure. Puis, c'était quasiment du harcèlement envers Luc, tellement que j'avais le goût d'être là. Mais le point est que ça fait 10 ans que je suis dans les médias. J'ai fait beaucoup de journalisme, pas juste de l'animation ou du commentaire avec toi, comme dans l'émission qu'on est ensemble là, cette année. Mais il y avait, puis je vais le dire avec tellement d'affection, il y avait quand même des barrières à accueillir journalistes ou gens des médias parce que je pense qu'il y a un petit traumatisme aussi de gens qui sont allés en se disant « Voici ma façon de vivre, voici ma façon de voir les choses, voici comment moi je vis dans le Sud » et d'essayer d'imposer un peu ça, d'aller chercher tout ce qui, à leurs yeux, ces gens-là, ne fonctionne pas versus comment vous fonctionnez. Ah, c'est comme ça parce que vous avez des différences de climat, vous avez des différences de société, vous avez des différences d'approvisionnement, vous avez des différences historiques aussi. Et c'est là où je pense que parfois, ça peut être un peu mal vu, une Pascal qui arrive dans le Nord avec un background journalistique, puis en même temps, ben, ils veulent pas t'obliger à dire des choses ou à constater d'une autre manière que eux le souhaitent. C'est pas une obligation dans le processus de vision ou d'acceptation, mais il faut absolument ce que Christophe a dit, cette ouverture d'esprit-là, un genre de backwash. Là. Tu te mets à zéro, t'as plus d'eau grise à l'intérieur de toi, puis tu y vas vide, là. Tu te remplis de ce qu'on t'offre.
Puis, tu sais, ce qu'on voit aussi, là, c'est que souvent, ce qu'on a sur les communautés autochtones, c'est des préjugés. T'sais, on n'en connaît pas tant que ça, des Inuits. Puis ce qu'on a, c'est quoi? Ils payent pas de taxes, ils prennent trop d'alcool, puis on les voit flâner à Montréal. Tu sais, c'est pour la majorité des gens, c'est assez minime là-dessus. Donc, de battre les préjugés, je pense que ça faisait justement parler de l'intention, partie de l'intention du voyage.
Toi, Luc Paquette, t'as passé quelques années là-bas, t'as enseigné là-bas?
Oui, exact.
Qu'est-ce qui t'a porté à aller vers ces communautés-là? Parce que c'est toi qui as été initiateur de ça?
Dans le fond, j'ai un bac en enseignement primaire, puis je pensais qu'un gars en enseignement, j'allais trouver un emploi assez rapidement. J'avais mal compris la game syndicale, que j'allais faire mon chiffre comme tout le monde. Ouais. Puis c'était très, très long. Donc, j'étais en voyage de noces avec ma conjointe, puis j'ai dit, je vais juste aller un peu regarder quelque chose. Puis je suis revenu en disant, je viens d'envoyer un CV dans le navire, qu'on voit ce que ça va donner. Puis deux semaines après, ben.
Tu avais-tu demandé avant?
C'est encore une question qui est non résolue. Mais...
Il avait pas accepté d'offre d'emploi, il a juste regardé une possibilité.
Selon moi, c'est un sujet qui avait été abordé plusieurs fois. Mais bref.
Il a quand même attendu après le mariage pour, pour faire le move. Le contrat est signé, c'est bon, on part. Hein?
Donc, tu avais envoyé des CV, puis finalement, tu as été accepté là-bas.
Exact. J'ai eu un appel, puis nous, on avait un jeune qui était en sixième année, Sam, puis... On est parti à l'aventure. On est parti là pendant une année.
Toute la famille.
On est les trois. On est en 2007. Okay. Puis, exact. On est en 2007. On est parti les trois là-bas à Kingsolujuaq. On est arrivé. Puis, on a juste tombé en amour. Okay.
Puis, ton gars, il avait quel âge?
Sam, il avait 11 ans. Fait que lui, il était d'âge sixième année. Puis Sam, c'était un jeune qui avait quand même ben de la misère à l'école. Fait que, tu sais,
okay.
Fait qu'on allait aussi dans un environnement où la prise de risque pour lui était moyenne. Puis, tu sais, je suis arrivé là, je disais, Sam, il paraît que le hockey, c'était important, puis tout ça. Fait que, parce qu'on tripe bien gros là-dessus. Fait on est arrivé là-bas, puis...
T'en as pas voulu, parce que des fois, moi, je parle juste, là, Beauce et Québec, ou Beauce et Montréal, puis mon gars, il dit, non, tu comprends pas, là, papa, moi, je veux mes amis, là, toi, tu sais, il devait t'en vouloir un peu de partir.
Sam, il est extrêmement reconnaissant. Ça lui a permis d'aller au Pee-wee du Carnaval, parce qu'il jouait pour l'équipe du Navic. Moi, j'étais avec Joey Junot là-dessus, fait que je coachais une 12 heures de game de hockey par semaine, en plus, fait que... Il est allé là, il est allé au Yukon pour les Arctic Games parce qu'en badminton, il se débrouillait bien. Il a chassé, il a pêché. Puis j'ai dit, si on veut rester, il faut qu'il aime ça. Fait qu'on a acheté les motoneiges, on a mis la tente, on a acheté les fusils.
En même temps, t'as pas trop le choix. Là. Tu dis, on a fait ce choix-là. Mais
tu as acheté un fusil?
Ah ouais, il avait son fusil, il avait tout ce qu'il fallait pour être comme les autres. Puis, tu sais, il est devenu... trilingue. Il parlait inuktitut puis anglais en dedans à peu près de 8 mois rendu là-bas. Okay. Puis ça lui a aussi permis, vu les difficultés scolaires que je permets, le niveau scolaire était plus bas. Fait que lui, ça lui a permis d'aller chercher son secondaire 5, puis de revenir ici, puis de faire son DEP en électromécanique. Fait que ça lui a même ouvert une carrière que je suis pas sûr que dans le système au sud ou à Québec, qui aurait été capable d'aller chercher le même niveau académique.
Ta conjointe, avait-tu un emploi là-bas aussi? Est-ce que c'est trouvé de quoi?
Ma conjointe, elle était sur le point de terminer son bac à l'enseignement. Fait qu'elle a fait sa dernière année de stage là-bas. Puis ensuite de ça, elle a eu son emploi.
OK. Puis vous êtes resté combien d'années là?
On est arrivé trois. On a resté 8 ans de temps. Puis on est revenu... 6, on a adopté 2 enfants Inuits, plus on a eu un petit bébé miracle par la suite.
Comment c'était perçu, ça, l'adoption de ces 2 enfants Inuits-là? Est-ce que c'était perçu positivement parce qu'il y avait une vie au sud peut-être différente de ce qu'il y avait au nord, avec les complexités qu'on y connaît aussi? On rentrera là-dedans aussi si on a le temps, mais est-ce que tu as été jugé là-dedans?
Ça a été bien fait. T'sais, c'est, mettons, pour Ludo qui a été adopté le premier, lui, ça a été... C'est la communauté qu'il voulait. C'est vraiment là, parce que là-bas, les jeunes femmes tombent enceintes quand même relativement tôt.
Ah oui.
Puis ils sont pas vraiment pour l'avortement. Donc ça, c'est les grands-parents qui vont adopter les jeunes. Fait que, la grand-mère, elle avait déjà adopté la sœur biologique de Ludo. Fait qu'ils ont dit, garde, on cherche une famille, on veut qu'il soit bien. On a pensé à vous autres. Donc ça s'est fait un peu naturellement. Mais on s'impliquait puis on faisait tout pour qu'ils vivent leur vie. T'sais, on les a pas mis dans un château blanc puis tout ça. On a vraiment essayé qu'ils fassent partie de la communauté. La maison était tout le temps plein de monde. Donc, pour ça, je pense que ça a bien passé. Puis on s'impliquait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Mais c'est sûr qu'un côté, je vais parler, exemple, des gens qui travaillent pour la DPJ, ben, il y a du monde, tu sais, il y a des dans la communauté qui pensent qu'ils ont un bonus à chaque fois qu'ils sortent un enfant de la famille. Là. Fait qu'il y a assurément un lien de confiance à cause de tout ce qui s'est passé, qui est brisé entre les blancs, tout, mais ça demeure quand même, pour la majorité, ça a toujours été ça.
Ouais. Parce que tu disais, Pascal disait tout à l'heure, tu sais, parfois il peut y avoir des préjugés envers les communautés au nord de l'eau. Est-ce que l'inverse est aussi vrai? Tu sais, les blancs, est-ce qu'ils sont vus comme des envahisseurs quand ils arrivent au nord?
Comme des gens qui vont là pour faire l'argent. T'sais, parce que la réalité, là, c'est que la majorité des familles sont surpeuplées. T'sais, ils sont 12 dans une maison avec deux chambres, ce qui n'a vraiment pas de bon sens. Nous, on a nos maisons de profs, donc on est un deux étages avec trois personnes là-dedans. Notre épicerie, elle arrive par avion parce qu'on a fait notre commande à Valleyfield, puis ça descend alors que les gens là-bas payent un prix de fou dans les magasins locaux. Fait qu'il y a comme une iniquité sociale qui existe. Mais pour aller chercher du monde, ils n'ont comme pas le choix. Donc, fait que c'est pour ça que quand tu restes là-bas longtemps, ça change même la relation. Là. Mes élèves, ils écoutaient en tabarouette plus longtemps que tu restes là-bas parce que tu fais partie de la place et tu es moins vu comme quelqu'un qui va faire un gros salaire pendant un an ou deux puis qui repart après.
L'autre affaire, je sais, on en parlait avec Pascal au début de notre voyage dans le Nord, c'est... Je lui racontais une anecdote que Serge Bouchard dit dans un de ses livres, que des Blancs qui débarquent dans les réserves autochtones. Ben, les Inuits et les autres Autochtones envoient des centaines à chaque année. Mais ils repartent. Puis il n'y a pas un leg, il n'y a pas un retour nécessairement qui se fait par la suite. Donc, ils voient un anthropologiste, ils voient un sociologue, ils voient les gens de la DPJ, mais ils restent deux semaines, trois semaines, font leurs petites recherches, leurs petits papiers, ils partent avec leurs données, puis qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc, c'est sûr qu'il y a ce lien de confiance-là que tu as besoin de créer. Il n'y a pas de substitut à autant de qualités que tu vas passer dans les communautés avec ces gens-là.
Toi, Christophe, as-tu eu de la misère à t'intégrer quand t'es arrivé là-bas ou c'était chose facile parce que la trail avait été faite par Luc?
On a été extrêmement, puis je vais le souligner autant aussi souvent que je suis capable, on a été tellement chanceux d'avoir une personne liaison de grande qualité en Nancy Etouk, là, qui était une adjointe de la direction à l'école,
ouais.
Probablement la personne ressource ou le cœur et l'âme de cette communauté-là. Là. Donc,
quelle femme!
Être pris en charge par cette personne-là, être mis en contact avec son réseau, on savait qu'on allait avoir une expérience incroyable et on n'a pas 0-0-0 été déçu. Mais si on n'avait pas eu Nancy avec nous autres tout au long du voyage pour nous présenter X, Y, Z, nous permettre de vivre telle opportunité, ça n'aurait définitivement pas été le même voyage. Ça aurait été impossible à le vivre. Là. On serait resté dans notre maison à regarder la neige tomber, je pense.
Exact. La différence est frappante quand, par exemple, Nancy, qui est très appréciée de la communauté, Christophe le dit, elle dit à ses gens, à ses amis, « Hey, j'ai une gang en qui on peut avoir confiance, qu'on apprécie, qui sont amis avec Luc Paquette, qui a été connu pendant 10 ans, qui arrive. » Eux font « Ah, c'est Nancy qui nous... » parle de ces gens-là, ça doit être des bonnes personnes qui sont là pour des bonnes raisons. Mais tu peux, c'est arrivé à un moment donné de marcher dans la rue avec une autre enseignante, on était deux, puis je sais pas moi, il s'est peut-être passé quelque chose de très négatif avec une personne blanche dans une famille à un moment donné, puis un des jeunes qui, je pense que c'était là, Chris, qui nous a dit « retournez chez vous », OK, bon, le jeune, c'est sorti de lui. Assurément que c'est pas nécessairement pensé de ce jeune-là. Il l'a-tu entendu à quelque part? Y a-tu une réaction qui provient d'un parent qui a eu une mauvaise expérience avec un blanc qui a été pas correct? Ou on ne le sait pas. Mais oui, il y a parfois, je pense, une petite crainte ou un genre de méconnaissance entre les Blancs, les Inuits ou des comportements qui peuvent mener à « soyez donc pas ici si vous êtes là pour être pour les mauvaises raisons. »
Est-ce que tu fais un briefing, Luc, avant que les gars et les filles partent dans le Grand Nord? Est-ce que tu leur dis, là, vos œillères, vous allez les enlever, là, puis là, vous êtes rendus des gens de cette communauté-là, puis vous êtes en mode apprentissage?
Oui, puis tu sais, dans le fond, Nancy, c'est une amie, puis c'est avec elle qu'on avait organisé le tout. Fait que l'idée, c'était vraiment, voici un paquet de choses. Puis effectivement, j'avais rencontré toute la gang, puis j'avais repris avec Pascal un appel par la suite. Mais pour leur... juste les grandes lignes, de dire aller... Puis tu sais, le danger, c'est d'aller là puis de passer ton temps avec des Blancs qui vont te dire eux autres c'est quoi leur vision puis comment qu'ils l'ont vécu. Puis c'est justement pas ça qu'on voulait. Tassez-vous d'eux autres leur expérience puis vis-la donc directement avec le monde puis écoute leurs histoires, écoute leur réalité, ground-toi ce qui se passe là avec eux autres. Donc c'était pas mal ça le message là, qu'on voulait porter. Puis restez pas dans votre chambre à rien foutre. Sortez, allez voir la game de hockey à l'aréna, allez marcher, allez faire votre épicerie, mais
allez enseigner.
Mêlez-vous aux gens, sinon ça peut être vraiment trop facile de vivre dans une bulle. Puis une semaine, c'est pas long, fait que profitez-en au maximum.
Christophe, c'est quoi le plus gros choc de culture que tu as eu là-bas quand t'es arrivé?
Et puis heureusement, Luc m'en avait parlé un peu, mais la conception du temps comme construction sociale,
ouais.
Il y a vraiment un beat puis un pace, un rythme de vie, soit en bon français, là, qui est complètement différent de ce que, auquel nous, on est habitués. Et ça se voit dans les enfants qui jouent dehors tard, ça se voit dans l'école qui commence à une heure flexible, on va dire. Ils ont un rapport au temps qui est très, très, très différent du nôtre. Et on est parti 5 jours concrètement, là, si tu enlèves les 2 jours de voyage. Et ouais. Ça m'a pris un autre 5 jours de retour à Québec pour me dire, bon, j'ai retrouvé mon rythme de vie d'avant le Nord. Là.
Parce qu'ils n'ont pas d'heure. Là. Ils s'amusent. Ils vont à l'école. C'est la lumière aussi, il n'est pas toujours la même. Là.
C'est le moment. Je pense qu'une des choses qui représente le Nord, là, c'est le moment présent. Ils sont... Là, il y a un beluga qui est pas loin d'en bas, puis on va aller chasser le beluga. Le reste, ça vient d'être tassé. C'est rendu non prioritaire. Okay. On va vivre ce moment-là.
Parce qu'il passe maintenant.
Parce exactement. L'équipe Bantam du village joue à 14 heures. Ben, on va fermer le village, puis on va tout aller voir l'équipe Bantam jouer à 14 heures. Puis toute la gang avec les madames, puis les casseroles, puis on fait du bruit. Mais c'est vraiment ça. C'est...
On en parlait avant l'entrée en onde, qu'on a eu la chance d'assister à un conseil municipal, un conseil des aînés dans la communauté où on était. On se fait dire, OK, il y a un premier bloc le matin de 9 à midi, on prend une heure de pause à midi, puis on recommence à 1 heure. Fait que nous, on retourne dans notre maison, on revient à 1h moins quart, et là, ils ont affiché sur l'écran géant, la grande toile dans le centre communautaire, la course de chien qui se terminait.
Okay.
Donc, on était une centaine dans le gymnase du centre communautaire, en plein milieu du conseil municipal de ville, à regarder la course de chien de traîneau se terminer. Puis là, il est 1 heure, il est 1h30, il est 1h40. Puis encore là, on regarde chaque petit traîneau arriver avec l'attelage de chien. Puis l'ordre du jour est juste reporté à plus tard. Fait que cette rencontre-là, qui devait se terminer à 4h, c'est fini à 8h30 le soir.
Puis il y a plus de temps. T'sais, c'est aussi ça. Quand on était là, nous autres, on avait porté les enfants à la garderie à 8h05. On arrivait à l'école tout à pied à 8h15. On allait dîner ensemble. On retournait chercher les enfants à 4h15. Je coachais de 6 à 9. Puis, tu sais, il n'y a pas de magasin. Tu ne vas pas chez Simon le dimanche. Tu vas faire la motoneige. Tu ne vas pas voir tes parents parce qu'ils ne sont pas là. C'est un gros terrain de camping. Tout le monde est autour. Fait qu'il y a énormément de temps qui se libère. Il n'y a pas de déplacement. Tu ne vas pas à Montréal. Tu es pris dans ton village. Fait que c'est vraiment ça, le temps se crée aussi, puis qui permet d'en profiter davantage. Okay.
Fait que toi, ton choc des cultures, Christophe, c'était vraiment le facteur temps qui n'existait plus. Toi, Pascal?
Moi, je pense que c'est la conception communautaire. Tu sais, il y a tellement d'exemples en une semaine qui nous sont arrivés, que ce soit, je peux le dire, là, Chris, je suis vraiment désolée. À un moment donné, on a un gros pick-up, un camion qu'on l'a emprunté, mais on faisait tout à pied. T'sais, la communauté, t'es capable de marcher, ça te prend 5-6 minutes. T'arrives à un autre endroit, t'arrives à l'école. Mais là, blizzard, il y a eu beaucoup de neige. On a un camion, on nous le prête. Fait qu'on embarque là-dedans. On arrive pour le stationner à un endroit, honnêtement, jamais on aurait pu penser que le camion s'enlise. Là, mais il s'est enlisé, puis pas à peu près. Là. Il a calé là, dans la neige. Mais nous, on arrive, puis ils nous voient. Puis probablement qu'ils ont eu le fou rire de leur semaine. Là. Bon, la gang de blanc avec le pick-up qui réussissent à se pogner dans la neige, puis il n'y a rien à faire. On part, on fait tout sur le 4 pattes, il n'y a rien. Puis nous regardent. D'après moi, ils nous ont regardé un genre de 3-4 minutes, puis se sont dit, on ne leur demandera pas s'ils ont besoin d'aide, on va aller chercher le matériel pour les sortir. Ça, c'est un exemple.
Parce qu'ils
vont être encore là, puis on va les aider. Dans le conseil municipal auquel on a assisté, il n'y avait pas de questions à se poser sur on apporte-tu des collations, on apporte quelque chose à boire. Tout le monde avait contribution, faisait des sandwichs sur le fly, la bannique, faisait se cuire ça, ils regardaient si tout le monde avait faim ou pas, ou à boire. On est arrivé première journée à l'école, on avait des enfants qui étaient là, qui attendaient un enseignant, une enseignante qui n'était pas là pour des raisons X ce matin-là. Puis les enfants nous regardent, bien, ça va être vous qui allez nous enseigner ce matin. Mais moi, j'ai aucune formation là-dedans. Chris en a une, fait que je me colle après Chris, puis on part dans la classe. Puis les enfants parlent Inuktitut, qui est leur première langue, c'est Inuktitut. La deuxième, bon, ça va être l'anglais. La troisième, le français à partir, bon, troisième année du primaire, si je ne me trompe pas, à question de 30 minutes par semaine. Puis après ça, tu l'apprends plus. Mais ils ont les mêmes examens du ministère, on en reparlera peut-être un jour.
Ah ouais, OK.
Ouais. Puis on arrive dans la classe, on a le déficit de langage. Chris s'exprime extrêmement bien en anglais. Il est prof d'anglais. Réussit à parler un petit peu de mots, mais on se parlait en son, en signe, en image. Puis les enfants nous montraient leur routine matinale. C'était magnifique et magique de voir ça. C'était pas des enfants qui sont allés niaiser sur une tablette à leur bureau ou commencer à faire n'importe quoi puis être énervés. Ils nous ont pris dans leur, avec leurs petits yeux puis leurs gestuels puis ils nous ont montré, ils nous ont dit hey, regardez-nous comment c'est le fun ce qu'on fait le matin. On met des pictogrammes de météo, puis après ça, faut écrire la météo sur notre calendrier. Puis on a eu un fou rire parce qu'il y a une des enfants qui essayait de s'exprimer avec moi, puis elle montre qu'il faut mettre dans la petite case de la journée la météo après avoir tout fait ça avec Chris. Puis elle me dit tout ce que tu as à faire, Pascal, toi, c'est pour approuver que. Mais c'en est nous que t'es un gars avec des pictogrammes. Mais tu sais, un autre petit gars qui arrive, qui dit vous nous avez pas donné nos céréales. Oh, excusez, on savait pas. C'est que des exemples pour démontrer à quel point. Il y a une chaleur.
Dans pendant ce temps-là, j'ai des ados qui changent leur nom quand ils ont un suppléant à l'école secondaire.
Faut pour croire. Faire suer.
Ils eux changent sont leur fiers. Nom.
Ouais, ouais. Quand il y a un suppléant, ils changent leur nom. Ben, ça c'est à Québec, là. Juste pour nuire aux profs en avant, mais autre débat.
On a tous fait tomber une étui à crayon malencontreusement tout en même temps à une heure précise dans une classe d'école secondaire là,
ouais.
Pour faire suer ceux qui arrivent qui remplacent dans la classe. Nous, c'était juste un accueil extrêmement bienveillant. Puis. Nancy nous a amené rencontrer des amis qui nous ont donné du temps, qui nous ont parlé. On a eu passé une soirée dans une tente très loin en motoneige, tu pars, puis il y a le sapinage, t'arrives là-bas, ils font un feu, tout est de partage dans la nourriture. On était supposé être 4, arrivent 18 personnes dans la soirée parce que le mot s'est passé, puis tout est partagé. Il n'y a pas une histoire de hey, on se faisait à souper, on va manquer de nourriture, hein, on va se débrouiller. Si on manque de nourriture, on va trouver des biscuits soda dans le fond de l'armoire.
Mais puis... c'est vraiment un gros terrain de camping, comme tu disais.
Oui, il y a vraiment... C'est du partage. C'est assurément du partage, d'être en commun, d'être ensemble. Tu sais, des... Je trouve que tu parles de communautaire pas mal. Pascal, là, exemple, combien il y a de monde ici qui finissent le 31 décembre à écouter le bye-bye tout seul, juste leur famille ou à 3-4?
Il y en a beaucoup. Là.
Il y en a beaucoup.
Ouais.
Là-bas, c'est tout le monde qui se rassemble ensemble au centre communautaire, puis c'est des jeux, puis c'est un festin qui monte ensemble, puis ça va durer 3-4-5 jours. Là. La
personne
vie
seule.
Communautaire, okay. Le monde ne sont pas seuls.
Ça
le monde
leur prend 60 minutes à aller s'asseoir parce qu'il faut qu'ils disent salut à tout le monde qui vient de croiser dans la pièce. Je pense pas qu'on fait ça, nous. Là. On va reconnaître du monde dans la pièce, puis on va dire salut à ceux qui étaient à l'entrée. Eux,
on
vont
faire
le
général.
Tour. Exact! Salut, comment ça va? Ils vont se souvenir de la famille, de l'enfant. Okay. Les enfants, c'est les enfants de tout le monde.
Hein? Ah oui, c'est vraiment vrai. Puis on était, nous autres, les enfants restaient... On avait les enfants, puis ils étaient cute. Fait que là, les jeunes de 6e, secondaire 1, ils venaient manger à la maison. Puis t'en as-tu parlé à tes parents? C'est quoi cette question-là? Je vais revenir plus tard. Là. Je mange quelque part, puis je vais revenir chez nous.
Ouais.
C'est comme ça, c'était un fil qui n'existait pas, mais il n'y a pas de risque, là, dans le sens que les enfants ne se feront pas kidnapper. Là. Tu ne peux pas sortir du village. Fait que y a vraiment quelque chose qui est de l'art du partage puis de la bienveillance là-dedans.
Mais
là,
c'est d'où l'expression, ça prend tout un village pour élever un enfant?
Ça prend tout son sens là-bas, exactement.
Ouais.
Exactement,
okay.
Puis le savoir ancestral qui est là, puis... Hey, on arrivait des fois à l'école, puis il y avait un fuck à terre. Tu rentrais dans l'école, puis il y avait un gros fuck à terre. Puis là, les personnes âgées arrivaient. Puis là, il n'y avait pas de cours à matin. On allait tout voir les personnes âgées, comment qu'ils débitaient le fuck, puis comment qu'ils organisaient ça, puis ce qu'ils faisaient. Puis c'était voici comment qu'on porte notre culture.
Mais c'est essentiel parce que tu disais, nous, on commandait notre épicerie, puis on la recevait par avion, via Valleyfield et... On a été pris dans un blizzard pendant 24 heures. Là. T'as pas de livraison. Puis ta livraison est une fois par semaine ou pas chaque jour. Là. Fait que ça se peut que tes étalages soient vides pendant plusieurs jours. Donc, la chasse, la pêche, la préservation des territoires. T'sais, on parle d'environnement souvent, mais ces gens-là, c'est essentiel à leur survie. C'est pas juste une histoire de « ouais, les lacs, c'était... » Non, non, c'est essentiel à leur survie. Puis j'aimerais ça, Chris, que tu parles d'un des enseignants des cours qu'on pourrait voir comme l'ancienne économie familiale qu'on avait ici au Québec, mais qui prend absolument tout son sens au Nunavik, là?
Ben, c'est ça. On a eu des groupes d'adaptation scolaire dans chaque école de la province. Ben, c'est le fun aussi de voir qu'il y a un penchant Nunavik à ça aussi. Donc, tu prends tes élèves les plus poqués, ceux qui ont le plus de difficultés à l'école, tu les mets dans un groupe où le scolaire est mis un petit peu sur le réchaud, puis on se concentre sur les life skills. On s'assure de les garder dans un environnement qui est sécuritaire, qui est bienveillant, puis on leur apprend des choses. Puis là, on est extrêmement privilégié de tomber sur un enseignant qui s'appelle Daniel, qui est un petit peu le détenteur de ce savoir ancestral-là, à tout le moins dans l'école. Donc, il apprend aux kids comment fabriquer les petits couteaux traditionnels. Il les amène dans la forêt pour apprendre à chasser. Ils ont des cours de pêche sur glace. Ils ont des cours de motoneige.
Pour être guide pour les touristes.
Pour être guide sur la glace, exact. On a passé 2 jours à construire un traîneau de motoneige. Donc, avant-midi numéro 1, on bâtit le truc en bois. Journée numéro 2, on le vernit. Journée numéro 3, ils nous ont amené en motoneige sur le territoire avec le traîneau qu'on venait de construire
pour voir
est-ce qu'il fonctionne. Fait qu'on a mis Pascal dedans, puis on a tapé pour voir si le traîneau allait fonctionner.
Très bon réflexe.
Ouais. Comme de fait, j'ai plus de coccyx depuis, mais
comme
il fonctionnait.
De fait, le traîneau fonctionne.
Malheureusement.
Mais tu sais, moi, j'ai trouvé ça formidable parce que j'enseigne dans des groupes d'attestation scolaire à l'école en anglais. C'est des jeunes, ils ont déjà 2 prises contre eux dans la vie. T'essaies de les rattacher le plus possible à l'école, mais t'sais, c'est rough. Le cours de maths, il est rough. Le cours de français, il est rough. C'est démoralisant. Puis je m'attendais un peu à voir ça dans ce cours-là avec Daniel, mais tu voyais vivant, tu voyais rayonner ces enfants-là. Ils étaient en train de faire des choses que leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents avaient faites avant eux autres. On partait en motoneige, les sourires. Autant ça peut être difficile de mettre une paire de bottes quand vient le temps d'aller à ton cours d'édition physique. Là, mettre les bottes, mettre les pantalons de neige, s'habiller en 5 minutes, tout le monde était rendu sur une motoneige, ça remplissait d'essence, puis on était parti du territoire.
À moins 30.
Ça, ils l'ont dans la peau, là. Ils
oui,
sont heureux.
Ils en ont besoin. J'ai jamais vu un Inuk autant heureux que sur le territoire, sur sa motoneige, en train de nous faire explorer cette espèce de détendue de glace, de neige, puis de soleil-là. Ils prenaient vie, ça faisait du sens pour eux. Ils étaient vraiment dans leur élément.
C'était alors pas que superficiel,
dans nos...
en
non,
plus,
dans nos
savoir.
Écoles à nous autres, ben, t'avais quand même l'impression que qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis ici? C'est pas dans mon sens, c'est pas dans ma culture. J'ai besoin d'être à de faire autre chose. Fait que les voir de s'animer, de rayonner comme ça dans le territoire, ça m'a vraiment, vraiment.
Ici, nos gens à l'adaptation scolaire, c'est de dire ce que ça prend, ce qu'on valorise, c'est un secondaire 5. Fait qu'ils essayent de faire ce qu'ils peuvent pour se rendre le plus loin, mais ils n'atteindront pas la valorisation qui est d'avoir le diplôme. Exact. Au Nord, ils veulent des gens qui sont capables de vivre sur le territoire. Fait que les jeunes en ADAP, ils finissent guides, ils finissent chasseurs pour la communauté. Ils deviennent ce qu'ils valorisent, donc toute cette culture-là. C'est vraiment pas mal vu pour eux autres.
C'est pour ça que c'est pas superficiel. Quand ils vont chasser pour la communauté, ils vont ramasser de la viande pour des familles qui vont travailler dans d'autres métiers, qui n'ont pas le temps d'aller chasser, par exemple, s'ils n'ont pas assez d'argent ou pas assez de denrées dans la coop ou autre. Mais eux apportent ça, puis ils se partagent. Fait qu'ils deviennent... Ils partent en étant... Je mets une grosse parenthèse, puis j'utilise le terme « rejet de la société », ils deviennent les essentiels de la société parce qu'on les a valorisés à la juste valeur. Puis Daniel avait tellement de respect de ses jeunes parce que lui était issu de ce parcours-là. C'est un homme qui a créé son emploi, si on veut, avec le discours.
Ouais. Luc, tu as un défi supplémentaire. Tu as adopté 2 jeunes du Nunavik. Est-ce que tu remarques ça une fois qu'ils sont ici, qu'ils ont besoin de sortir plus souvent à l'extérieur, qu'ils ont besoin de faire des trucs ancestraux?
Ouais, je te dirais plus que comme tous les autres ados, faut plus que je les force à sortir de la maison puis à vivre quelque chose à l'extérieur. Là, faut croire que c'est pas génétique, mais la culture a pris ça. Mais non, je le verrais pas.
Ils ont pris le modèle de leur père.
Le père aime ça être dehors, m'a-t-elle dit. Mais il fit avec les jeunes d'ici. Là, okay. Nos enfants, ils ont grandi, on est revenus, ils étaient rendus en première année. Donc, ils vivent à Québec depuis bien, bien longtemps. Mais ils ont encore vraiment cette curiosité-là puis cet intérêt-là. Là. Ma fille, surtout, mais tout ce qu'elle peut porter qui est autochtone, qui remet... Ses amis sont là, elle, c'est vraiment une partie importante.
C'est important pour elle.
Oui, puis on y va 2 fois par année encore, nous autres, pour ça. Faut vraiment qu'ils gardent le lien, puis qu'ils le valorisent, puis qu'ils voient le positif, puis qu'ils n'entendent pas juste des fois les discours négatifs, mais qu'ils se rendent, qu'ils connaissent le monde, les gens qui font la différence, qu'il y ait plein d'amis là-bas. Donc,
moi, ça m'a vraiment... Parce que mine de rien, les enfants à Luc viennent à l'école où on travaille, donc c'est sûr qu'on les connaît. Mais ça m'avait vraiment surpris à notre arrivée à Coudjouac de les voir autant rayonner aussi. T'sais, Marianne, elle part dans le Nord, elle fait sa semaine, elle revient, puis elle est super souriante, elle est tellement contente, elle a vécu son petit voyage dans le Nord, puis ça la change complètement. Puis c'était le fun aussi de voir tes enfants, Luc, sur ce jour-là.
Tu as remarqué qu'il y avait une différence.
100%.
Okay. Mon gars, t'es content, parce que là-bas, tu peux faire du F-150 à 14 ans, puis te promener dans les rues. fait que Ludo, lui, il dit « Hey, Marianne, tu penses qu'on pourrait demander à Naomi de faire du F-150 à ce soir? » Ça serait quand même plaisant.
Jouer du hockey senior, puis se prendre des claques à la gueule.
Puis jouer du hockey senior, puis se prendre des claques à la gueule. Fait que oui, il a le goût de sortir, finalement, pour revenir sur la question.
C'est clair, c'est clair. Puis, Puis Luc, en même temps, Pascal, elle ouvrait la porte sur les examens du ministère. Comment ça fonctionne là-bas, vu que, bon, les heures sont différentes? Des fois, il y en a qui ont un petit peu plus de difficultés que les autres. C'est-tu la même affaire qu'un peu plus au nord?
Dans le fond, là, les jeunes apprennent l'inuktitut en première puis en deuxième année. En troisième année, ils ont moitié de l'école en inuktitut, moitié de l'école en français ou anglais. Puis ouais. À partir de la quatrième année jusqu'en secondaire 5, ça se divise en... C'est comme si le français ou l'anglais devient leur langue un peu maternelle. C'est ça qui a une prédominance. Puis l'inuktitut devient comme la langue seconde.
OK.
Et puis l'objectif, avec un taux de décrochage de 85%, c'est d'amener les jeunes quand même au cégep. Donc, ils doivent rencontrer les mêmes examens à un certain moment pour le faire. Mais ça demeure vraiment un enjeu, là, juste en termes de temps. T'sais, ils n'ont pas eu les bases de lecture puis de l'écriture. Présentement, il y a des gros enjeux en termes d'enseignants. Là. Si ici, on a une pénurie d'enseignants, imaginez là-bas, là, c'est pratiquement la majorité sont non légalement qualifiés. Là. Donc, ça, c'est quand même des enjeux qui sont importants. Donc, des amener. Mais oui, ils veulent de plus en plus avoir les mêmes attentes qu'un jeune d'ici, mais il faut que ça demeure réaliste aussi. Hein.
Chris, t'enseignes en langue seconde, tu le sais comment ça peut être complexe d'intégrer une nouvelle, un nouveau langage chez un enfant qui utilise que le français, mettons, ici à Québec, depuis toujours. Fait que d'imposer des examens du ministère à des enfants dans les mêmes barèmes que nous, on a dans notre langue maternelle, clairement, tu dois être revenu avec une interrogation totale de ça, là.
Une interrogation, non. Là. Encore une fois, ils ont leur réalité à eux autres et ils semblent naviguer là-dedans assez bien à la hauteur des moyens qu'ils ont. Là.
Mais par l'imposition gouvernementale qu'on leur fait pour l'interrogation.
Mais le fait est, c'est que ça prend quand même un standard. Il n'y a pas de cégep à Kangasaujuaq. S'ils veulent poursuivre leurs études par la suite, ils doivent s'expatrier. Ils doivent aller ailleurs, aller chercher ça. Tu veux leur donner les meilleures chances possibles de réussir dans la prochaine étape de leur vie aussi, ça prend des standards communs. Après ça... C'est la question autochtone inuit est pareil, peu importe, tu le regardes sur quel aspect, quel spec, là, mais il n'y a pas de solution parfaite, il n'y a pas de moyen parfait pour se rendre à une résolution positive. On fait notre gros possible du mieux qu'on peut. Moi, l'image que j'ai la plus frappante de ce qu'on est en train de parler en ce moment, c'est va dans n'importe quel corridor de n'importe quelle école secondaire dans la région de Québec, de Montréal, peu importe. Tu vas voir les murs des photos des finissants. C'est 80 jeunes, 100 jeunes, 160 jeunes avec leur toge, leur chapeau, le petit diplôme dans les mains. Tu vas à l'école Ouloriaq où nous on était, c'est chaque graduation, chaque cohorte, c'est 5 élèves, 6 élèves, 3 élèves.
Alors qu'il y en avait combien au début de l'année?
Ben, c'est une bonne question.
85% de taux de décrochage. Donc, ils vont commencer vraiment avec deux classes de préscolaire puis ça va se fondre. Mais c'est aussi un des gros enjeux du Nord parce que les infirmières inuites ou infirmier, c'est très, très rare. Tout ce qui demande un cégep ou une université, il y en a très peu. Fait que tu te ramasses toujours avec les communautés qui ont les emplois parfois les moins rémunérés ou les moins importants. Puis tu dépends des Blancs qui arrivent avec leur façon de faire pour occuper les emplois les plus importants. Puis ça crée quand même un débalancement qui n'a pas de bon sens. Là, si on amènerait ça ici, ça ne marcherait pas.
Okay. Mais toi, Luc, de ton côté, est-ce que tu as vu, parce que tu as été là pendant plusieurs années, as-tu vu de l'amélioration au niveau du système scolaire? T'sais, est-ce que quand tu es arrivé, c'était 95% de décrochage, puis on est rendu à 85%? Y a-tu du positif là, qui
les dernières
année
données,
après année?
Les dernières données que j'ai vues, ça stagne quand même. Là. C'est vraiment pas évident. Puis c'est tough parce que tu vois tes jeunes en quatrième année, ou genre, je commence en quatrième année, tu te dis... C'est toutes des machines de guerre. Ils vont toutes finir avec un secondaire 5.
Ouais.
Puis là, t'es revois plus tard, puis j'enseigne au secondaire, tu dis, oh, là, on a perdu lui, mais lui, on le perdra pas. Ben, on va les amener jusqu'à la fin, mais gang, challenger peut-être pas tout un cégep, mais ce que je veux, c'est créer une génération de gens avec un chapeau noir à la fin, puis qui ont gradué, puis qui montrent le modèle aux autres. Fait que, tu sais, ça, il y en avait beaucoup.
Puis ils font quoi quand ils décrochent de l'école?
T'as beaucoup d'emplois pour la ville, tu sais, dans le fond, puis le taux de décrochage est tellement élevé que c'est pas anormal. T'sais, des fois, c'est quand le normal devient anormal, là, t'as un peu de ça quand même. Fait, t'sais, ils vont aller travailler pour la ville, ils vont travailler pour les magasins du coin, ils vont conduire le water truck puis le shit truck, là, t'sais, y a pas d'aqueduc, fait que c'est un camion qui vient te donner l'eau puis qui vient tirer ce que t'as fait. Fait que, t'sais, ils vont occuper, ils vont être guides, ils vont être chasseurs. Moi, j'avais une étudiante, était... C'est un génie, là. Être née ici, puis aller dans le système ici, elle aurait été sur Mars. Puis, est allée au cégep, sa mère était dans sa famille, est revenue. Je pense qu'à 17 ans, était directrice d'après de la garderie, était directrice générale de la garderie du village qui accueillait 65 jeunes. Fait que, tu sais, le potentiel est là, puis il y a quand même pas mal de monde qui n'ont pas d'emploi non plus.
OK. Puis, y aurait-tu un moyen de renverser la tendance? C'est-à-dire, oui, tu vas avoir un emploi pour la ville, mais tu dois continuer jusqu'à temps que tu termines ton secondaire 5. Puis à ce moment-là, ben, tu auras accès à un salaire peut-être un peu plus élevé que celui qu'on te donne là. C'est-tu le genre d'initiative dans la communauté qui pourrait prendre?
Je pense que c'est des débats qui leur appartiennent vraiment. Ouais. Ça devient, dès qu'on rentre là-dedans, de dire
parce que
la place de la langue, la place de... Ouais, mais...
Dès que tu rentres un policier inuit, pour la communauté, ça doit être fantastique. Là.
Ben oui, mais non. C'est le policier inuit de sa communauté s'en vient faire régner la loi et l'ordre dans sa communauté. Il va se mettre du monde bien à dos bien rapidement. Là. Donc,
okay. Ouais, c'est un autre
c'est dans monde. Oui, parce que s'il arrête t'attendre, mettons, parce qu'elle est chaude puis elle fait des niaiseries...
Ben... C'est pas ah, maudit système, c'est ah, maudit mon ancien ami avec qui je suis allé à l'école pendant 5 ans qu'il l'a mis en prison. Là,
au même titre qu'un blanc qui arrive, il fait dire, moi, je vais faire régner la loi et l'ordre parce que je sais comment ça fonctionne puis je vais vous encadrer. T'sais, on en parle souvent, toi et moi, en émission, on sait qu'il y a des chefs de police qui ont eu des formations culturelles aussi parce que dans certaines communautés, ils sont plus avenants sur le toucher. On va, attends, je vais m'expliquer. Il va mettre une main sur l'épaule du policier, puis le policier va tout de suite réagir parce que ici, tu n'es pas supposé d'entrer en contact physique avec un policier. Nous, c'est un petit peu plus ça. On a des plus grosses bulles dans certaines communautés. C'est plus chaleureux sur le physique. Mais c'est la même chose, un policier qui s'en va dans le Nord. Puis on nous parlait d'un blanc qui s'est très, très bien intégré et qui, lui, quand il s'en va dans une maison, il connaît tellement bien, il a tellement été là. Il est tellement arrivé avec une ouverture d'esprit, puis une compréhension, puis un désir de, bon, apprenez-moi comment ça fonctionne, qui se fait respecter. Fait que lui, quand il arrive, il n'a pas besoin de force physique ou encore de manipulation ou quoi que ce soit. Il arrive, il dit, hey, ça va arrêter maintenant s'il se passe quelque chose. Mais ça, c'est un des policiers qui est respecté, mais tu as d'autres histoires par rapport au comportement de tous et chacun là-dedans. Là.
Mm-hmm. Mais les enjeux sociaux sont vraiment compliqués, puis je pense que c'est eux, tranquillement, qui vont trouver leur solution, puis pas nos solutions.
C'est très important pour eux, ça.
Exact, mais c'est vraiment des gros casse-têtes. Là, tu sais, je me souviens, il y avait la première journée d'école, puis j'avais une dame, c'est une amie qu'on connaissait très bien, puis elle était comme la directrice un peu du gouvernement régional. Puis on avait assisté à ça, puis j'avais un meeting à Coudjouac, puis elle aussi, fait qu'on était dans l'avion, puis elle dit, Luc, je suis tellement angoissé. Qu'est-ce qu'elle a dit? T'as-tu vu le nombre de jeunes qu'on a dans notre communauté? C'était 50 % de la population qui avait moins de 18 ans. Elle a dit, on manque déjà de maisons. On va faire quoi?
On va les mettre où?
Exact. Fait que quand le logement devient un enjeu, puis c'est pas évident, là, ça coûte déjà une fortune, mais tout là-bas coûte cher. Donc, c'est plein de questionnements comme ça.
OK. Puis des emplois pour les Blancs là-bas, il y en a-tu régulièrement?
Ah oui, je pense que tu arrives là à l'aéroport puis tu vas te prendre un emploi. Là. C'est vraiment pour, mettons, enseignement, policier, infirmière. C'est un peu les classiques, services sociaux. Ces services de base-là, il y en a énormément. Là.
Construction,
exact. Plusieurs entreprises, tout à fait.
Je pense qu'il y a un exemple assez frappant puis qu'on a pu observer de première vue. Là. Justement, le conseil de village auquel on a participé, auquel on a assisté, on devrait dire, là, c'était sur l'acceptabilité sociale de l'implantation d'une mine à 30 km de Kang-Sul-Juak. Et là, tu as la liaison entre la mine et la communauté qui dit, bon, alors là, il anticipe pendant la période de construction de la mine 2000 emplois. Là, 2000 emplois, ça flash, c'est un beau chiffre, 2000 emplois. Fait que là, la question revient, combien d'emplois pour les Inuits? Deux. Une personne qui va checker la guérite, une personne qui va faire peur aux caribous pour pas qu'ils viennent déranger.
Sur 2000?
Sur 2000.
Sur leur territoire.
Exact. 2000 emplois, mais on va en mettre deux de côté pour les Inuits, peut-être.
Pour eux, c'était une concession. Pour eux, c'était une discussion. Puis dans ça, moi, je veux dire, Chris, il a sa vision. Il y avait une prof de science avec nous. Tout le monde avait un peu une analyse différente du conseil auquel on a assisté. Sauf que ma vision journalistique de la chose qui était très intéressante, c'est tu reviens au Sud dans un contexte de tarifs avec Donald Trump, avec des minerais extrêmement valorisés, importants dans le monde entier, que tout le monde souhaite mettre la main dessus, qui appartiennent à un territoire québécois, en partie au gouvernement. On ne commencera pas à faire la nomenclature des territoires acquis, mais ça a été débattu auparavant, puis il y a des zones là, qui sont aux communautés, d'autres partagées au gouvernement et aux communautés, puis d'autres juste au gouvernement et donc à tout le monde. Mais ils veulent construire cette mine-là, ils vont la construire. Par contre, ils veulent que ça soit accepté en société, ils ne veulent pas de problématiques avec les communautés sur place, donc ils discutent avec eux. Les discussions, c'est « on sait que ça va arriver ». Comment est-ce qu'on peut trouver des compromis pour qu'on ait notre avantages là-dedans en tant que communauté inuite. Là, on parlait d'emploi, il y en a deux. Comment est-ce qu'on peut préserver nos territoires de chasse et de pêche? Parce que c'est de la manière dont on s'alimente. Si ça, c'est pollué ou si ça, c'est pris d'assaut, ben on perd des endroits où les caribous peuvent passer et autres. Déjà que c'est compliqué avec le réchauffement climatique. Il y en a de moins en moins. Le gouvernement va vouloir faire des concessions. Ils vont vouloir implanter cette mine-là parce que l'économie nécessite au Québec aussi. Puis sinon, ben, quelqu'un d'autre va vouloir le faire avec un bras de fer. Puis ça ne sera pas des gens d'ici. Ça va être des pays ou des conquêtes territoriales. Puis en même temps, ben, à quel point tu es conscient de ce qu'eux vivent au quotidien quand toi, tu arrives juste en tant qu'expert ou négociateur dans le dossier, mais que tu n'as rien connu du Nord, que tu n'as pas vécu avec eux, que tu n'as pas compris que c'est nécessaire puis que c'est pas juste des gens qui tiennent bout pour bout à leur histoire puis à ce qui s'est passé puis qui veulent pas avancer.
Mais en même temps, c'est quand même des gens qui s'immiscent dans ton garde-manger. Là, fait que
c'est directement ça.
Que tu puisses pouvoir en discuter, puis on va en reparler après la pause, si tu le veux bien. Ce soir, on discute d'une mission éducationnelle qui a eu lieu au Nunavik. Ma collègue Pascal CV a réussi à s'immiscer dans cette fameuse mission éducationnelle. On a le plaisir d'être avec l'initiateur de cette mission-là. Son nom, c'est Luc Panquet, qui est directeur de l'école du Mont-Saint-Anne et ancien enseignant au Nunavik. Et adopter deux jeunes du Grand Nord canadien. Je trouve ça intéressant. Et Christophe Amiotte-Giroux, qui est avec nous aussi, qui est un enseignant en anglais de l'école secondaire Mont-Saint-Anne. On va faire une courte pause et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Boulevard, le pit stop. 101. La semaine, dans Marceau le midi, Marceau et Gravel refont le monde pendant 30 minutes dans le pit stop.
Yes, mon homme!
C'est simple, rapide et efficace. Et surtout, tellement divertissant. Ils n'ont pas la prétention de régler des dossiers, mais ils ont souvent des bonnes idées.
Hey, ça, c'est un beau midi, mon gars.
Le pit stop. Tous les jours de la semaine, midi.
Ce segment d'émission présenté par Pièces d'auto économiques. Pièces d'auto économiques, c'est des pièces neuves garanties, les meilleurs prix et des grandes marques comme Rebestos, Bosch et Mevotech. Pièceséconomique.com.
Du 30 juillet au 3 août, ne manque pas le Festival de Lévis avec Robin Schulz, Rise Against, Theory of a Dead Man, Florida, Talk, I Am et plusieurs autres. Cette semaine, restez à l'écoute de Boulevard 102.1 pour gagner votre laissez-passer. 5 jours de musique, d'activités pour la famille et de montgolfière pour vous en mettre plein la vue à seulement 69,99 $ plus taxes au festival.ca. Une présentation Loto-Québec.
Ce jeudi 24 avril, c'est l'événement Milwaukee chez Outils Plus.
La plus grande vente d'outils Milwaukee de l'année.
Prix imbattable, promotion exclusive et cadeaux avec achat sur tous les outils Milwaukee. Outils Plus, Boulevard Louis XIV, outilsplus.com.
Le printemps est là et c'est le moment de faire de la place chez Marlin Chevrolet Buick GMC. Nous avons un large inventaire d'Equinox EV et de Blazer EV démonstrateurs à liquider avec un rabais allant jusqu'à 8000 $. Et ce n'est pas tout. Venez découvrir nos rabais mystères en concession. Nos véhicules électriques vous offrent une autonomie impressionnante et une recharge rapide avec la technologie de pointe. Vos trajets n'auront jamais été aussi électrisants. Marlin Chevrolet Buick GMC au 2145 rue Frank-Carrel.
Chez Leclerc Communication, vous le savez, on est une grande famille.
Une grande famille d'étranges personnages, ouais.
Mais tellement attachants. Et c'en est de même pour nos trois nouveaux. Souhaitons la bienvenue à Élisabeth Boulay en tant que chef terrain. Elle rayonne et adore quand ça bouge. On est ravis de te compter parmi nous. Mélissa Audi joint aussi notre équipe comme coordonnatrice aux promos. Elle est attentionnée, dévouée, elle amène des cupcakes puis elle répand la joie au bureau. Et finalement, Kaylen Bélanger rejoint le département technique. Ses deux parents travaillent aussi en informatique, fait qu'on peut dire qu'il y a ça dans le sang.
Bienvenue à vous trois et bon succès chez nous.
Ici Mark Carney. Nous avions l'habitude de bâtir des choses dans ce pays. Après la Deuxième Guerre mondiale, le Canada a été confronté à une crise de logement. Le gouvernement a bâti des maisons. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une nouvelle crise de logement. Je vais m'assurer que le gouvernement recommence à bâtir des maisons abordables. Nous augmenterons l'offre et réduirons le coût. Nous bâtirons un Canada plus accessible.
Autorisé par l'agent enregistré du Parti libéral du Canada.
Aux Trois Brasseurs, on prolonge le plaisir d'une bonne game de hockey avec l'offre des séries. Le burger Zamboni à tremper dans le fromage coulant servi avec frites, la bière sous pression la quatrième période et la bière en canette la mise en échec. Viens en profiter aux Trois Brasseurs.
Pourquoi vous devriez venir chez Vélo de la Côte pour votre vélo? Parce qu'ici, on est des vrais passionnés de vélo, vraiment bien placés pour vous donner de bons conseils. En plus, on est un commerce local proche des gens. Vélo de la Côte, le bike shop le plus convivial de Québec. Entourez-vous de couleurs. Du 16 au 29 avril, obtenez 20% de rabais sur les peintures Benjamin Moore sélectionnées. Profitez de cette offre à la Clinique de la couleur de Beauport ou Charlebourg. Une entreprise d'ici. Détails en magasin.
Chez Simard Cuisine et Salle de bain, nous transformons l'espace de vie des gens d'ici avec élégance depuis plus de 55 ans. Confier son projet à Simard, c'est s'offrir la tranquillité d'esprit et un produit haut de gamme, durable, à prix accessible. Faites comme des milliers de clients qui ont choisi notre équipe passionnée pour réaliser leur projet sur mesure. Et vous comprendrez pourquoi Simard est un leader par son expérience client distinctive. Contactez-nous ou visitez notre salle de montre du 325 rue du Marais à Québec.
Écoélectrique, une idée branchée de JM Auto Plus, est maintenant ouvert et c'est votre destination pour les petits véhicules électriques à Québec. Quadriporteur et triporteur EcoloCycle, carte de golf, Explode et beaucoup plus. Pour en savoir plus, visitez ecoelectrique.com.
T'as envie d'une job le fun, sans soir ni fin de semaine avec un salaire compétitif pis une gang vraiment tripante? Joins-toi à l'équipe de Telio Assurance, le bureau complètement différent et le plus cool au Québec. Plusieurs postes sont ouverts. Courtier en assurance de dommages des particuliers, agent en premier contact ou de perception, adjointe administrative, formatrice en assurance et gestionnaire de compte en entreprise. Intéressé mais sans formation? Joins-toi à notre académie et nous acceptons les candidatures spontanées. Passe voir ça à nos bureaux de Québec ou Lévis ou postule à telioassure.com.
L'Institut Diva, au service de votre bien-être depuis plus d'une décennie. Passez voir notre nouvelle succursale sur 4 Bourgeois. Nouvelle adresse et nouveau décor, mais avec la même équipe attentionnée. Les nouvelles clientes sont bienvenues en service d'esthétique, coiffure et massothérapie. InstitutDiva.com.
Pendant que Stéréo Plus Le Bourgneuf se refait une beauté, continuez de profiter du meilleur service en ville et de la livraison gratuite au StéréoPlus.com. Stéréo Plus, plus, plus.
Stéréo Plus. Je pense que si on veut avoir une démocratie saine, on devrait f*** Radio-Canada.
Un monde sans radiodiffusion publique, c'est pas un monde dans lequel on voudrait vivre. Donc c'est essentiel de f*** Radio-Canada.
Si vous voulez protéger notre culture et notre identité, là, vous irez voter pour Radio-Canada.
Ça ne devrait pas être choquant de financer la radiodiffusion publique. Votez pour sauver votre voix. Votez pour sauver Radio-Canada.
Ce message est retenu et payé par l'organisme Les Amis des médias canadiens.
Hey, chez Québec Brou, là, les mardis et les jeudis à partir de 4 heures, les ailes sont à 50 cents. Hey, ça tombe-tu bien pour le hockey, ça?
Québec Brou, Vanier, Charlebourg et l'Ancienne Lorette.
Pas pire, hein?
Puis, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine?
Une maison.
Jusqu'au 23 avril chez BMR, il y a jusqu'à 20% de rabais sur les luminaires d'intérieur et encastrés sélectionnés. BMR, pour les vrais. Des conditions s'appliquent.
Adoptez le Volkswagen ID4 2024 100% électrique qui vous offre espace, confort et technologie. En avril, chez Laval Volkswagen, obtenez jusqu'à 15 000 $ de rabais, incluant le programme Roulez vert et un financement à 0% jusqu'à 72 mois sur certains modèles. Laval Volkswagen, sans flafla depuis 1968.
Boulevard. Boulevard 102. La radio qui t'accompagne partout. Un peu comme l'intelligence artificielle, mais sans t'espionner.
Papa, je suis obligé de mettre mon habit de main.
Fait que moins 25, moins 27, le ressenti. Assurez-vous d'être bien habillé demain matin, parce qu'il va faire plus frais.
Ah, tu me niaises-tu, là? Pourquoi c'est encore bouché ici?
Oui, il y a un accident, donc un incident sur... voyons...
La route?
Sur la route, oui, là, sur Wilfrid Hamel. En fait, c'est pas vrai, c'est sur la capitale.
Boulevard 102.1. Quand t'en as besoin, sans le savoir.
102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
On a le plaisir ce soir d'être avec ma collègue Pascal Cévé pour participer, pour parler plutôt d'une mission éducationnelle où elle a décidé d'embarquer avec Luc Paquet, qui est directeur de l'école du Mont-Saint-Anne et ancien enseignant au Nunavik, ainsi que Christophe Amiotte-Giroux, qui est enseignant en anglais à l'école secondaire Mont-Saint-Anne. Pascal, tu parlais justement d'une entreprise qui voulait s'établir pour faire de l'exploitation minière dans le Grand Nord, puis il y avait 2000 emplois disponibles, puis la communauté se posait des questions à savoir, bon, il va y avoir combien d'emplois pour les membres des Premières Nations? Puis on a répondu 2 seulement sur 2000 emplois. Je vais poser la question à Luc Paquet qui a passé quelques années au Nunavik. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces entreprises-là n'embauchent pas les Autochtones de la place? Je veux dire, la main-d'œuvre est là.
On entend tout le temps parler qu'il y a un pourcentage de gens qui doivent être engagés. Exemple, il y a quelques mines là, comme Ringland, il y a quelques mines qui sont quand même des bons employeurs dans le coin. Puis ça, je pense que ça augmente. J'ai pas les chiffres, là, mais l'impression que j'ai du monde que je connais dans le village, il y a de plus en plus qui se trouvent des emplois. Puis c'est quand même des bons emplois. C'est du fly-in, fly-out. Ils reviennent, puis après ça, ils sont capables de s'occuper de la famille et tout. Donc ça, je pense que ça donne un gain, mais... Encore une fois, c'est le niveau d'éducation. Quel emploi il faut conduire la machinerie lourde? Bien, ça te le prend, ton cours de machinerie lourde. Ouais. Soudeur, ça te le prend, ton cours. Fait combien qu'il y a d'emplois, malheureusement, où tu n'as pas besoin d'un haut taux d'éducation?
Mais ces entreprises-là ont besoin certainement d'agents de sécurité. Ils ont besoin de patrouilleurs sur le territoire. Ben, j'imagine deux emplois seulement.
Probablement.
Vous m'avez sacré à terre.
Bien, tu sais, puis... J'ai pas les réponses à toutes, là, mais il y a quand même, quand c'est des. Même dans le village, il y a des compagnies de blancs qui font de la sécurité au nursing puis dans les résidences. Parce que le travail se fait différemment, probablement sur nos normes à nous autres, puis la façon de faire des blancs là-dedans, mais c'est des emplois qu'on pourrait se demander pourquoi que c'est pas des genuites, mais est-ce que les gens les prennent quand ils sont disponibles? Là? Je ne sais pas toute l'information à ce sujet-là, mais même pour ces emplois-là, ouais. C'est pas évident.
C'est une communauté sèche? Est-ce qu'il y a de l'alcool là-bas? Est-ce qu'il y a de la drogue là-bas? C'est-tu très répandu?
Il y a deux communautés qui permettent l'alcool, qu'il y a des bars, mettons, à Coudjouac quand tu arrives, mais les autres communautés sont sèches dans le sens qu'ils s'en vendent pas. Mais quand il y a un enseignant, puis il y a des enseignants inuits à l'école ou autre, tu as accès, ils appellent ça avoir du cargo, donc tu peux faire ton épicerie à Québec puis la faire livrer. Puis là, les gens peuvent se commander de la boisson à moins qu'il y ait comme une blacklist. Là. Mettons que tu as mal géré ça, mm-hmm. tu n'auras pas le droit. Fait que c'est possible. Ils peuvent commander à SQDC puis ça rentre par la poste comme n'importe qui. Là, c'est des résidents du Québec. Okay. Fait comme la SAQ aussi, donc ils peuvent tout le faire. Mais
parce que je me posais des questions. Comment Pascal a réussi à survivre 16 jours sans verre de rouge ou verre de blanc?
Il parlait de gestion d'alcool. Nous, on en a manqué. Là. On a mal géré dans nos...
C'est sûr que leur gestion a été adéquate, mais c'est un autre sujet.
OK. Fait que oui, mais ça dépend. Puis la drogue, est-ce que c'est répandu?
Oui, c'est vraiment... Il y en avait déjà beaucoup, puis c'est dispendieux. Là, exemple, avant la SQDC, une bière, ça pouvait se revendre 10 $. Je pense qu'un gramme de pot, ils veulent vendre ça 50. Et... un Mickey, un 10-11 de vodka, c'était autour de 100. C'est comme la rareté qui crée ça. Mais
ce qui m'écoeure beaucoup là-dedans, Luc, puis on a jasé avec du monde, là, c'est que... T'as des blancs qui profitent de traumas, de besoin de cuver quelque chose, de drame. Tu sais, tout le monde s'est déjà posé la question après une grosse semaine. Hey, je peux me prendre un petit verre pour décompresser?
Ouais.
Sans avoir tout le parcours générationnel. Puis des traumas, c'est dans le sens, c'est prouvé, c'est génétique. Puis t'as des blancs qui arrivent, puis qui se disent, moi, je vais faire de la vente, puis de la revente à des communautés qui, pour certaines personnes, ça va être un genre de béquille, mais la mauvaise béquille.
Ils font de l'argent sur le dos de la misère des gens.
Ça, c'est une des affaires qui m'horripile. Puis après, les stéréotypes sont engrossés par ça, puis on continue de les alimenter, mais parce qu'il y a des gens qui n'ont aucun scrupule en arrière de ça.
Quand tu disais tantôt pour les journalistes, des fois, sont-ils moins bien vus ou quoi que ce soit, on voulait absolument donner une touche positive. Tu sais, d'avoir tout le beau qui existe, puis ça, c'était vraiment la force qu'on voulait aller. Mais les traumas intergénérationnels, ça fait partie des discours là-bas qui sont, tu sais, il y avait quand même une loi dans le temps qui disait qu'il faut tuer l'Indien dans l'Indien qu'on avait au Canada. Fait que les gens, là, ils se rappellent encore des abus sexuels qu'ils ont vécu. Ils se rappellent des écoles résidentielles. Moi, j'avais une madame qui disait qu'il se rappelait que. Il était venu tuer ses chiens en dessous de sa maison parce qu'ils sont sur pilotis, là, exact. Que la GRC était rentrée là, puis elle se rappelait que ses chiens étaient tous morts, qu'ils avaient tués.
Ben voyons.
Fait que Nancy me racontait qu'elle avait un oncle qui était revenu des pensionnats, puis il se frottait la peau avec une genre de laine minérale pour essayer de s'enlever tout le brun qu'il y avait sur lui pour être comme les autres. Fait que ces traumas-là qui ont été vécus. Bien, c'est des grands-parents puis des parents qui ont donné ce qu'ils pouvaient avoir avec leur enfant, mmh. mais avec un paquet de douleurs puis un paquet de traumas qui existent, qui sont vraiment présents. Puis c'est ça qui vire en rond. C'est une des choses de prendre le temps, le gros healing, là, c'est un mot vraiment populaire au Nord, mais de guérir de ces traumatismes-là. Quand on avait de la misère à avoir une psychologue parce qu'il n'y en avait pas au Nord quand on enseignait là. Puis la majorité des enfants auraient eu besoin de tout ça. Il y a eu une grosse avalanche qui avait eu lieu dans les années 90, je ne me souviens pas exactement, puis ça avait tué des gens dans le village. Il n'y avait pas eu tout ce soutien-là pour pour les gérer l'âme un peu, là, puis les douleurs.
Tout le monde connaissait quelqu'un, justement, comme nous.
Ça crée une vulnérabilité à l'alcool puis à la drogue, puis ça n'a aucun bon sens quand on voit du monde qui vient abuser de ça. Là. Mm-hmm. Mais de guérir des douleurs passées, c'est vraiment un thème qui est omniprésent au navigue de passer à travers ça.
Mais sachant que c'est ça qui arrive, t'sais, maintenant, les gens ils vont peut-être laisser tomber leurs préjugés. Ben, ça sert à ça d'en parler.
Non, mais il faut que tu le vives, il faut que tu parles, il faut que tu aies l'ouverture d'esprit de le faire. Il ne faut pas que tu tombes tout le temps dans ta béquille d'analyse puis de commentaires en disant « Ah, mais ils ne veulent pas s'aider de toute manière. » C'est tellement difficile.
Ils ont un passé.
Ben oui, que ce soit dans la génétique, que ce soit dans le manque d'aide comme des psychologues ou autres ou dans la fermeture. Sinon, on est constamment en train de se dire « Ils ne s'aident pas, ils ne veulent pas s'aider. Mm-hmm. » Ça leur tente-tu de se confier? Ça leur tente-tu d'exposer leur réalité puis d'essayer de trouver? Puis on n'est pas mieux. Il ne faut pas s'élever en sauveur non plus là-dedans. Là.
T'as-tu l'intention d'y retourner, Christophe?
Pas comme enseignant, parce qu'on en a besoin.
Luc, il veut le garder.
Il veut pas le perdre.
Toi, tu t'en vas
pas. Non, mais il y a de l'argent à faire dans les mines. Faut pas. Oui.